When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et pour parler de l'actualité tennis aujourd'hui, nous retrouvons bien sûr Arnaud Di Pasquale. Salut Arnaud.
Salut Anne.
Et pour l'accompagner, pour nous accompagner, nos deux spécialistes au micro comme au stylo, Bertrand Milliard et Laurent Vergne. Bonjour messieurs.
Salut Anne, salut Arnaud.
Salut les gars.
La saison de tennis touche bientôt à sa fin, même si de beaux rendez-vous restent encore à jouer. Parmi eux, une compétition qui continue à faire parler d'elle, et pas forcément en bien. Évidemment, je parle de la Coupe Davis. Malgré la fin du contrat avec le groupe Cosmos de Gérard Piquet, la formule adoptée qui n'a pas vraiment changé peine toujours à convaincre, et on s'inquiète de l'avenir de cette compétition. Peut-on croire encore à la résurrection de la Coupe Davis et pourquoi ? Ce sera notre débat du jour. Autre question délicate, celle du retour du tennis en Chine après 4 ans. Boycotté par la WTA pendant presque 2 ans en raison de l'affaire Peng Shuai, la Chine accueille de nouveau des tournois féminins cette semaine, malgré l'absence d'évolution de l'enquête concernant la disparition de la joueuse chinoise, pour des raisons économiques principalement. Alors, ce retour du tennis en Chine était-il inévitable ? Ce sera notre question qui fâche. Il y aura également, vous en avez l'habitude, la stat de Constance, notre partenaire du compte Twitter Je sais tes maths, et l'œil de Deep pour compléter ce programme. Je vous rappelle que le podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Premier jeu, première manche, Deep Impact, c'est parti. Alors, nous en avions parlé en février dernier, hein, déjà, messieurs, à l'occasion de la fin du contrat annoncé entre l'ITF et l'agence Cosmos pour l'organisation de la Coupe Davis. Cette fin de contrat laissait espérer un retour de l'âme de cette compétition centenaire mise à mal, on l'a dit à maintes reprises, par les changements apportés par l'agence de Gérard Piquet. On savait que ça resterait en l'état pour cette édition 2023 au niveau du format, mais la compétition disputée cette semaine a confirmé que le changement était indispensable et que la Coupe Davis quand même pouvait peut-être renaître de ses cendres. C'est notre débat du jour. Messieurs, on a eu ce week-end un beau résumé de ce qui ne va pas avec la Coupe Davis actuelle. Des tribunes vides pour des matchs sur terrain neutre, un manque de motivation pour certains, des intérêts croissants pour la compétition qui a pourtant fait tant rêver. Mais on a vu aussi, quand l'équipe joue à domicile, quand une des équipes joue à domicile, ce qui a été le cas avec la Grande-Bretagne face à la France, à Manchester, eh bien, on a retrouvé un petit peu de ce qui faisait le sel et puis l'âme même de cette compétition. Alors, est-ce qu'on peut croire à une renaissance de cette Coupe Davis, à condition bien sûr de retrouver surtout ce format domicile-extérieur ? Qui veut commencer sur ce sujet ?
Bon, je veux bien commencer. Alors bien évidemment, je n'ai pas regardé la moindre image de Coupe Davis ce week-end, puisque ça ne m'intéresse absolument plus. Je ne comprends rien d'ailleurs à ce format qui ne m'intéresse pas. Et je ne sais pas qui jouait, qui a gagné, qui a perdu. J'ai juste vu les images de joie des Britanniques à la fin, effectivement, dans une belle ambiance. Ça rappelle la vraie Coupe Davis, la seule Coupe Davis. C'est la Coupe Davis, c'est au meilleur des 5-7 et en 5 matchs. Voilà, après, il faut trouver un compromis peut-être, parce qu'il y avait 4 tours par an sous ce format-là, ce qui faisait beaucoup. Donc peut-être la jouer tous les 2 ans, par exemple, c'est quelque chose qui avait été, sur 2 ans même, c'est quelque chose qui avait été proposé. Mais le format actuel en 3-7, déjà, pour moi, c'est une hérésie. J'en ai déjà parlé aussi pour les petites nations, celles qui sont dans d'autres groupes, dans des groupes 2, 3, qui ce sont des joueurs qui sont souvent modestement classés, qui n'ont pas la possibilité de jouer en 5-7 dans leur carrière parce qu'ils n'ont pas le classement pour jouer en Grand Chelem. Et c'était donc un moyen pour ces joueurs-là de jouer aussi au meilleur des 5-7 dans des fortes ambiances. Donc la Coupe Davis, on l'a vu, c'est un loupé. On a vu que Stan Wawrinka lui-même avait ironisé alors qu'il jouait cette Coupe Davis en parlant de l'impact qu'avait eu Cosmos sur le manque de public dans les tribunes. Il a ironisé là-dessus. Gérard Piqué lui a répondu en disant qu'il n'y avait jamais eu autant de monde, je crois, que l'année dernière, phase de poule, choses comme ça. Et Julien Beneteau, notre ancien capitaine de Fed Cup actuellement et ancien joueur de Coupe Davis aussi, a rétorqué, a dit à Gérard Piqué, comment oses-tu encore parler après avoir fait ce qu'est de cette compétition, ce qu'elle est devenue? Donc, oui, il faut que cela soit réformé pour redevenir une vraie compétition. Actuellement, ça n'en est plus une pour moi. Et ça passe par un format domicile extérieur évident, parce que sans ambiance, bah, il n'y a pas vraiment de gros tournois. Hein. C'est quand même de l'ambiance, surtout dans une épreuve comme ça par équipe qui génère d'elle-même en général, avec le côté un peu chauvin du public. Et puis, trouver la bonne formule. Effectivement, revenir à l'ancienne, ça va être très difficile, parce que ça prenait de la place dans le calendrier, et que le calendrier est chargé. Mais la faire sur 2 ans, ou faire un tour en moins, ou commencer un quart de finale avec des têtes de série, avec des barrages comme il y avait avant. Je ne sais pas, il faut réfléchir là-dessus, mais absolument revenir à la formule domicile extérieur et avec, je pense pour moi, des matchs au meilleur des cinq.
Ça, c'est encore possible de croire à un retour au meilleur des cinq. On sait que Feliciano Lopez a été interrogé là-dessus et pour lui,
Il a dit
la
non.
priorité sera peut-être plutôt domicile extérieur s'il faut choisir un des deux aspects qui faisait la beauté de la Coupe Davis.
Ouais, je pense qu'on en est à un tel point qu'il faut peut-être hiérarchiser les problèmes et les possibles solutions. Et pour moi, de très très loin, le format domicile extérieur, le fameux home away dont on a beaucoup reparlé ce week-end, c'est la priorité absolue. Parce que ce que les joueurs et le public a toujours cherché en Coupe Davis, ce sont des émotions d'une nature différente par rapport à ce qu'on peut vivre sur le circuit. Or, ces émotions-là, elles passent nécessairement par le fait de jouer devant son public ou contre un public, dans des ambiances hostiles, parfois limites, parfois avec beaucoup de tension. Et on l'a vu là avec la rencontre notamment entre la Grande-Bretagne et la France ce week-end, il y a eu des moments assez tendus, hein, des fins de match un peu houleuses, de la provoque, mais c'est ça aussi la Coupe Davis. Si on veut voir des gars qui rigolent ensemble, qui se tapent sur le ventre, on regarde la Lever Cup, on regarde l'UTS ou je ne sais quelle exhibition, parfois même certains tournois officiels, mais la Coupe Davis, vraiment, c'était une atmosphère différente. Et aujourd'hui, on a clairement deux Coupes Davis, c'est-à-dire qu'on a les rencontres de Coupe Davis qui se jouent en mode domicile extérieur et celles qui se jouent sur terrain neutre qui n'ont objectivement strictement aucun intérêt. Même pour les joueurs, je pense. Hein. Si vous demandez aux Français cette semaine qui ont affronté les Britanniques chez eux, dans une ambiance très chaude devant 13 000 personnes et qui ont joué également l'Australie et la Suisse, je pense qu'ils ont, indépendamment du résultat final, ils ont pris beaucoup plus de plaisir contre les Britanniques que dans les deux autres matchs, parce que c'est ça la Coupe Davis. Donc aujourd'hui, on est dans une formule complètement bancale, hybride, avec presque deux compétitions différentes en même temps, y compris pour les mêmes équipes au sein d'une même semaine dans certaines poules.
Oui, c'est ça
Donc
qui n'a aucun sens.
ça n'a strictement aucun sens. Alors en plus, je pense que ce qui a été catastrophique, c'est qu'au-delà du fond qui a été pensé vraiment de manière catastrophique, la forme de Gérard Piqué depuis le début, entre provoque et mauvaise foi, a contribué à figer, je pense, les opposants dans une posture presque épidermique, quoi. C'est devenu, on ne veut plus de ça, on ne peut plus le voir. Donc là, il va partir. Feliciano Lopez, qui le remplace, m'a l'air, en tout cas, à travers ses déclarations, d'avoir une approche plus intelligente, plus mesurée, qui ne met pas sous le tapis les problèmes qui sont nés de cette nouvelle formule. Donc ça donne un petit peu d'espoir. Maintenant, les solutions vont être très compliquées à mettre en place, hein. Il n'y a pas de formule miracle. Et c'est pour ça, je pense que ça me rassure un petit peu d'entendre ce que Feliciano Lopez a dit, où il ne se pose pas en faiseur de miracles et qui va tout résoudre en quelques semaines ou quelques mois, mais qui hiérarchise les problèmes. Et clairement, il l'a dit, le format 3-7 gagnant. Je ne pense pas qu'on le reverra sur la Coupe Davis, pas dans l'immédiat. On est plutôt, depuis maintenant 15 ans, dans une tendance au retour presque exclusif au format 2-7 gagnant. Aujourd'hui, le 3-7 gagnant n'existe plus que sur les grands chelems. Déjà, si on pouvait le sanctuariser à long terme sur les grands chelems, ce serait pour moi déjà une satisfaction. En revanche, sur le côté domicile extérieur, il a l'air vraiment d'avoir envie de trouver des solutions parce que il connaît la Coupe Davis aussi, Feliciano Lopez. Peut-être un petit peu plus que Gérard Piqué. Il l'a vécu, il l'a joué. Donc, il sait quelle est la nature de l'émotion de la Coupe Davis. Et il a envie, évidemment, que tout le monde retrouve ça. C'est l'intérêt des joueurs, c'est l'intérêt du public. Et c'est son intérêt à lui aussi. Mais ce sera compliqué. Moi, j'ai pas, on en a déjà beaucoup parlé ici, j'ai pas de solution miracle. Je pense que personne ne l'a, sinon, ce serait simple et on l'aurait déjà mise en place. Mais au moins, j'ai l'impression par rapport à il y a 1 an ou il y a 2 ans qu'on est en train de crever certains abcès et qu'on va peut-être pouvoir réfléchir à plusieurs. Et quand je dis à plusieurs, il ne faut pas que ce soit l'ITF toute seule dans son coin. Il faudra que ça se fasse tôt ou tard avec l'ensemble du tennis pour lui trouver une juste place dans le calendrier la plus adéquate. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais au moins, on repart à peu près dans le bon sens, je trouve.
Le calendrier est très très décrié parce qu'il est long, mais il y a beaucoup de tournois voilà, de seconde catégorie. Là après l'US Open, c'est quand même une
Oui, mais
grande
l'ITF ne
maturité.
peut
Hein.
pas le faire tout seul dans son coin. Tu vois,
Non,
ça ne
mais
peut pas être
voilà.
unilatéral. Donc,
Non, les joueurs n'arrêtent pas de respecter sur le calendrier pour aussi penser à une saison avec moins de tournois. Par exemple, après un grand chelem comme l'US Open, où le plus gros de la saison est passé, pour y avoir moins de tournois, il y aurait peut-être plus de la place. Ou une vraie Coupe Davis, je sais pas, moi, pas la semaine suivante parce que c'est proche, mais 2 semaines après US Open. Après, le problème, c'est que ça ferait qu'une semaine et qu'ils vont trouver plusieurs si on veut faire plusieurs tours.
parce qu'au départ, il y a eu un changement de format parce que ça convenait plus quand même. Il faut pas oublier
Il y avait
que
quatre tours,
la...
avec ce format, le format des 5 matchs et des 5 sets, donc effectivement, ça faisait beaucoup. Mais c'était aussi des choix. Hein. On voit quand même que les Big Four, ils ont tous voulu à un moment donné la gagner. Et ils sont allés la gagner. Certains l'ont joué tout le temps, d'autres par à-coup. Mais c'était quelque chose qui comptait dans un palmarès compte. Donc ils sont quand même allés à un moment donné faire l'effort de la jouer. Après, il y a eu moins, comme ils l'ont tous gagné, ils sont un peu désertés. Il y a eu de moins en moins de grands joueurs. Mais moi, je trouve quand même que la Coupe Davis, l'institution Coupe Davis et la compétition en elle-même, est plus forte que le nom des joueurs qui la jouent. Parce qu'un match Monaco-Bulgarie, sur l'ancien format, ça m'intéresse. Et au meilleur des 5-7. Et je peux regarder des matchs. Alors que on n'a pas besoin d'avoir un Djokovic, un Federer ou un Nadal sur le court pour avoir justement, avec le format domicile extérieur, une superbe ambiance et des joueurs très motivés. Et c'est pas tellement le niveau de jeu qui compte en Coupe Davis, en fin de compte. C'est l'opposition, c'est ce que mettent les joueurs dedans.
Jusqu'à un certain point, notamment en finale, et je pense que c'est triste à dire, mais la victoire de la France contre la Belgique
Oui.
a vraiment fait du mal à la Coupe Davis, et ça a été le dernier clou planté sur le cercueil de ceux qui voulaient enterrer cette formule. Parce que quand tu gagnes une Coupe Davis sur 4 tours sans battre en simple un joueur du top 10, c'est quand même un problème.
Ouais.
En revanche, avant, pour moi, on n'avait pas besoin d'avoir Federer, Nadal et Djokovic tous les ans. Et la finale Croatie-Argentine, avec
Voilà.
Cilic et Del Potro en tête d'affiche, juste avant que la France ne gagne, a été extraordinaire. Murray l'a gagné avec la Grande-Bretagne, Cilic l'a gagné, Del Potro l'a gagné, en plus du Big Three. Donc, globalement, on n'avait pas de peintre qui gagnait la Coupe Davis. Et c'était toujours une équipe qui était portée en général par un grand joueur. Sauf, effectivement, il y a eu cette exception de la France en 2017, je crois, contre la Belgique. Et toute cette édition a été quand même globalement faible. Et ça me fait mal de le dire. J'étais très heureux pour les Français de voir Tsonga, de voir Pouille et tous les autres remporter la Coupe Davis. Mais si on n'est pas français et qu'on regarde objectivement ce qu'était cette édition-là, bah, c'était quand même un problème. Oui, c'était un problème.
Mais
Pas parce
justement,
que la France a gagné, parce
on va
qu'il bat
laisser par
personne.
la parole à Arnaud quand même.
Oui.
Si on vous demande quels sont vos, enfin moi, si on me demande quels sont tes meilleurs souvenirs en tennis, je crois que vraiment, tout en haut, en premier, je mets Lyon 91, la finale États-Unis-France, France-États-Unis, gagnée par la France. C'était en termes d'émotion, j'ai pas vécu plus fort, je pense, en tennis. Donc ça prouve que cette formule-là est effectivement avec des grands joueurs, parce qu'il y avait Agassi et Sampras d'un côté, avec Guy Forger, Louis Lecomte,
Ouais, mais en 2000,
côté
en
français, mais
96,
c'était.
il y a Culti en face,
Ouais, mais c'est énorme
et
aussi,
c'est
mais
pourtant extraordinaire.
oui, c'est moins, c'est extraordinaire, mais moins parce qu'on l'a déjà
Oui,
regagné,
je suis
mais c'est
d'accord.
extraordinaire dans le format et effectivement dans le scénario. Oui.
Alors Arnaud, est-ce qu'il faut associer les joueurs peut-être à cette
Gentil.
refonte? Est-ce qu'on peut y
Merci de me
croire
passer la
encore?
parole. C'est
Associer les
gentil.
joueurs.
Il faut pas les
C'est
lancer
gentil.
là-dessus, hein, les deux, parce qu'ils sont intarissables.
Bah ouais, je sais, mais comme j'aime pas couper la parole, je peux attendre la fin de l'émission sans aucun problème, vous inquiétez pas. Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'on s'acharne sur Cosmos alors que moi j'ai envie de m'acharner sur l'ITF, premièrement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je trouve que les joueurs ont quand même leur mot à dire, quoi qu'il arrive. Ça, je trouve, je le trouve malgré tout trop discret, voilà, par certains qui évidemment prennent la parole à 38 ans, ou, voilà. Mais globalement, il y en a quand même d'autres qui pourraient l'ouvrir un peu plus. Et que là, on arrive au bout du bout. Donc je trouve ça assez triste de voir finalement que les joueurs aussi se laissent porter par un truc qui est absolument nul. Ensuite, je reviens sur la mauvaise foi et là-dessus, je trouve ça fou. Évidemment qu'on commence à crever les abcès, c'est ce que tu dis, je crois, Laurent, mais parce que en fait, on arrive complètement au bout. On voit que ça ne peut pas fonctionner et on s'entête quand même, on lit encore que ça a fait, que ça a fait un tabac l'année dernière, que c'était. Enfin, on arrive quand même à nous faire croire que c'était génial par moment. Enfin, c'est quand même un truc qui est complètement dingue ce qui se passe. Et c'est pathétique. C'est quand même pathétique là ce qui se passe. Et donc on en arrive à un point, enfin qui est, enfin c'est le point de non-retour. On est dans une impasse là. Et donc c'est pour ça que ça va évidemment, enfin très probablement changer. Il y a même Joko qui a commencé à dire, alors qu'il était plutôt pour le changement, pas pour cette formule forcément, mais pour le changement, qui commence à dire très bien, mais si c'est pour jamais aller en Serbie, c'est pas cool, parce que l'objet c'est aussi justement de pouvoir communier avec son public, de pouvoir voir les. Enfin, la jeunesse, enfin, et surtout quand on a, ben, quand on est Joko et qu'on a envie de transmettre. Donc ça, c'est, ben, on revient sur le point fondamental, hein, et c'est bien ce que vous avancez tous les deux, et on se rejoint. Si j'ai bien compris, la phase finale est en Espagne, c'est ça?
Ouais,
Malaga,
toujours.
ouais.
À Madrid,
Sans
ouais.
l'Espagne, c'est ça?
Sans l'Espagne,
Ça
ouais.
va
Alors,
être absolument fabuleux, ça va être génial. C'est-à-dire que
ça va
là,
être
ça va être
nul,
fabuleux,
on peut le dire.
même si c'est le pompon, là, c'est. On ne peut pas faire mieux. En Espagne, sans l'Espagne,
Il y aura du public payé, encore une fois.
ça
Ouais,
va être
parce que c'est quand
affreux.
même ce qui avait sauvé les apparences, notamment lors de la
Oui.
première édition où Nadal était là, où les Espagnols avaient gagné chez eux. Et là, évidemment que tu retrouves une ambiance de Coupe Davis, évidemment. Mais il faudrait l'avoir à chaque fois,
Et
au moins.
donc, oui, elle était un peu malade. OK. Très bien, on est d'accord pour le dire tous. Mais à la fin, moi, je rejoins aussi enfin, Bertrand, je crois que tu disais, ils ont tous voulu la gagner, les meilleurs. Attention, hein. Ils y sont quand même allés. Et comme tu dis, ouais, il y a peut-être eu cette année là contre la Belgique qui a fait du mal, mais globalement, on est allé un peu vite en besogne quand même, je trouve. Je trouve
Oui, c'est
que
un peu loin. On a vite un peu loin.
la radicalité du changement, c'est vraiment grotesque. Et aujourd'hui, je trouve que de la part de l'ITF, de pas accepter cette erreur, de pas la reconnaître, moi je trouve ça mais plus qu'énervant. Et c'est ça qui rend fou, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu discutes encore avec ces pros du changement, parce qu'à la limite, on l'est un peu tous, mais là, à l'ITF, ils sont pas capables de reconnaître que ça a été une énorme connerie. Je trouve ça complètement fou. Ça serait quand même, on aurait presque envie, à un moment donné, simplement qu'ils puissent au moins reconnaître cette erreur. Mais voilà, donc là, c'est terrible. Enfin, moi, et comme Bertrand, bien évidemment, alors que la France a joué, j'ai quand même suivi tout ça d'assez loin, mais les résultats, mais j'ai pas vu une image. Ça ne m'intéresse pas. C'est pareil.
Alors qu'à l'époque, on pouvait voir franchement un Acassuso-Verdasco, je ne sais pas si on aurait regardé en temps normal. C'était le match décisif d'une finale en
Pour
Argentine, je me
l'ambiance,
souviens
pour l'atmosphère,
exactement.
c'est
Mais
ce que
bien
tu dis,
sûr,
c'est
c'était
l'ambiance
fantastique.
qui va chercher les
Et
trucs.
Verdasco avait gagné, ça termine à genoux. Il y a une ambiance de fou. Et voilà. Et c'est pourtant, ce n'est pas les meilleurs joueurs du monde. Mais la compétition était plus forte que les joueurs, encore une fois.
Oui, parce que c'était un révélateur, la Coupe Davis, parce que c'était des matchs que tu ne jouais que dans ce contexte-là. Donc c'était un truc vraiment à part, c'était unique. Et aujourd'hui, c'est plus unique. Aujourd'hui, ce sont des matchs comme les autres. Et en pire en plus, parce que la plupart du temps, quand tu joues sur terrain neutre, dans une atmosphère c'est un cimetière, la plupart des stades, tu vois, il y a quelques grappes de spectateurs. Alors, en plus, il y a Stan Wawrinka qui a lancé une petite polémique en expliquant. Selon lui, un petit quiz, il a fait un petit quiz Coupe Davis. Est-ce que vous savez que l'ATF paye des spectateurs pour assister à des matchs de Coupe Davis? Donc, bah, c'est vrai que j'aurais presque aimé que ces joueurs-là, on parle de grandes figures, hein, des gens comme Stan Wawrinka, parlent presque un peu plus tôt. Là, ça tire quasiment sur une ambulance parce que tout le monde a compris, à Cosmos se barre, là, c'est presque facile de tirer sur la Coupe Davis aujourd'hui. Alors, ils ont peut-être voulu laisser leur chance au produit, mais quand tu disais, Arnaud, il faut écouter les joueurs, mais un des grands arguments de ceux qui voulaient enterrer la vraie Coupe Davis, c'était de dire, les joueurs ne veulent plus la jouer. Déjà, je trouvais que c'était un raccourci quand même assez incroyable. Et puis, on n'a pas écouté certains joueurs, et notamment les jeunes. notamment la jeune génération. Je pense à quelqu'un comme Alexander Zverev qui jouait tous les tours de Coupe
Ouais.
Davis dans l'ancien format. Il était toujours là. Et lui, dès le début, il a dit qu'il ne
Il a
jouerait
gueulé,
pas cette
lui il a
nouvelle.
gueulé.
Ah ouais, et puis dès le début, hein, il a dit, moi, cette Coupe Davis-là, je ne la jouerai pas. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas la Coupe Davis.
C'est vrai.
Des gens comme Chapovalov et Ogier Aliassime qui ont vécu un grand moment dans la nouvelle version, mais ça aurait été exponentiel s'ils avaient gagné la Coupe Davis en jouant chez eux à Vancouver, à Toronto, à Montréal, devant 15 ou 20 000 personnes. Donc on a privé cette jeune génération de ça. Alors peut-être que les grands joueurs, après l'avoir gagné, ils la jouaient moins ou ils la jouaient plus, mais au moins eux, ils ont pu la gagner, ils ont pu profiter de ça. Et tous les autres, on les a privés de ça. Donc peut-être qu'on a un peu trop écouté des garçons qui avaient déjà 35 ans, qui avaient profiter de la Coupe Davis, et je dis profiter parce que pour beaucoup, ça a été très important dans leur carrière. Et je pense à quelqu'un comme Rafael Nadal, qui l'a gagné très jeune. Je pense à quelqu'un comme Novak Djokovic, pour qui la victoire à Belgrade en 2010 contre la France a été un tournant majeur dans sa carrière, et il l'a toujours dit. Et les autres, ils n'ont pas eu le droit à ça. Donc c'est dommage, et c'est même plus que dommage, c'est presque criminel.
Oui, mais
Pour...
alors un Alcaraz qui participe pas là, est-ce que c'est pas aussi le symbole du
Ah, mais
désintérêt de cette
est-ce
jeune
qu'il participe
génération?
pas parce qu'il n'en a rien à faire de cette
Bah, bien
version-là,
sûr.
ou
Ouais.
est-ce qu'il aurait il aurait participé dans l'ancienne version?
Ah, je suis certain que dans l'ancienne version, il aurait, bah, peut-être pas cette année, mais il aurait à un moment donné participé pour
Ah,
essayer
je
de la
pense
gagner.
aussi s'il avait pu jouer une demi ou une finale de Coupe Davis à
Ouais, contre
domicile
l'Italie,
contre
avec Sinner et Berrettini. Et...
ben voilà quelques. Enfin, je
Oui, mais
pense
là,
que
il savait que ce serait à Madrid comme enfin que ce serait en Espagne la finale, donc il y avait une chance de connaître.
oui, mais. Je ne sais pas. Là, on fait de la prospective de toute
Oui,
façon.
oui.
Est-ce qu'il l'aurait joué ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je pense que, au-delà de cette édition-là, dans l'ancien format, je serais étonné qu'il ne l'ait pas joué. C'était presque indispensable de vivre ce que c'était que la Coupe Davis. Dans une carrière, quand tu es jeune notamment, c'est quelque chose qui te fait grandir. Parfois, qui peut te détruire. Hein. Ça a détruit des carrières, la Coupe Davis.
Et inversement, il y avait aussi des joueurs qui faisaient, qui étaient bons quasiment que en Coupe Davis, ou qui se transcendaient beaucoup plus en Coupe Davis que dans les autres tournois. Je vous connaissez peut-être le Hongrois Pyrrhos, qui doit être, je sais pas, 100, 110, 115 actuellement, 120. À 18 ans, il avait gagné un match en 5-7 à Budapest devant son public. Je sais plus contre qui, mais contre un joueur plus fort. C'était un énorme, un très gros exploit, je me souviens à l'époque. Et Zombor Pyrrhos, il s'appelle. Et vous voyez, j'avais vu les images. Je me suis dit, c'est fantastique cette compétition. On a un gars qui a 18 ans, qui est inconnu, qui bat un joueur beaucoup plus fort que lui, un top 100. Et qui, ça le rend, il pleure de joie, il tombe au sol. Il y a toute une communion avec un public. Et pourtant, c'est que la Hongrie en Coupe Davis. Donc voilà, c'était une superbe compétition. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a
Mais
tué en fait une superbe compétition.
ça permet aussi d'exporter ce tennis dans des petites nations qui n'ont pas forcément
Bien
droit
sûr, ce que je
à des grands
disais.
tournois, la
Mais
Hongrie,
oui,
même
les
la Serbie
5-7.
de Djokovic. Il est né aussi de ça, Djokovic, de cette Coupe Davis, de ces compétitions qui ont
Bah,
fait
souvenez-vous
connaître le
2010, hein,
tennis. Et...
l'ambiance qu'il a mise et même le discours qu'il a prononcé au micro, ça n'a pas beaucoup plu aux Français, mais entre son match à lui remporté et le match décisif entre Troïki et Kielodra, il avait bien harangué le public. Alors effectivement, côté français, c'était pas facile à gérer,
C'est dur à
mais
vivre, ouais.
oui, c'est une forte ambiance. Puis je repense aussi au Paraguay-France, on en reviendra pas là-dessus, on en a déjà parlé, mais une ambiance, on jouait sur parquet, des pièces de monnaie qui étaient lancées sur les joueurs, Hervé Dutu qui s'est fait aligner pour le compte par un spectateur paraguayen parce qu'il était français, des matchs commençaient parfois, le premier match à 18h quand il y avait deux matchs en 5-7 à jouer, finir à 3h du mat ou 4h du mat pour que les joueurs français soient bien éreintés. Des trucs qu'on ne verrait plus, bah, et ça, bien sûr qu'il ne faut pas aller jusque-là, mais c'était aussi ça le sel de la Coupe Davis.
On a besoin d'associer les joueurs, alors. Peut-être les jeunes joueurs,
Petite
le
parenthèse,
conseil des
Bertrand.
joueurs.
Ouais.
Ton ami Pierrot Zombor, dont tu parlais, qui nous a
Ouais.
gratifié d'une petite imitation de Daniil Medvedev, avec une gestuelle un peu accentuée, mais on trouve bien quand même l'esprit de Daniil. Je vous conseille de regarder ça sur Internet.
Ce n'est pas mon
On aime
ami, c'est
toujours
un
les.
joueur.
Ça n'est pas mon ami. Bon, alors dans ce débat sur la refonte de la Coupe Davis, on espère que Feliciano Lopez va impulser quelque chose qui va associer les joueurs peut-être à cette réflexion pour retrouver un petit peu de ce qui a fait l'essence de cette compétition. On a une stat quand même qui concerne l'équipe de France, c'est la stat de constance du compte jeu 7 et mat. Et elle concerne donc la France qui n'y arrive pas en Coupe Davis parmi les nations qui ont participé à au moins trois phases de poule de cette Coupe Davis nouveau format. L'équipe de France est la seule nation n'ayant jamais réussi à rallier les quarts de finale. C'est un 0 sur 4 pour la France, qui a participé à toutes les phases de poule de la Piquet Cup, si on peut l'appeler ainsi. Elle s'est fait éliminer donc ce week-end
à Manchester par la Grande-Bretagne. Elle n'ira pas donc en Espagne pour le Final 8. Et au total, il y a 13 nations qui ont au moins participé à trois phases de poule de la Coupe Davis et qui ont à chaque fois au moins gagné une fois, enfin se sont au moins une fois qualifiées pour les quarts de finale. C'est anecdotique puisque ce n'est pas le format qui évidemment fait rêver, mais c'est aussi révélateur des difficultés du tennis français en ce moment. Ces résultats en Coupe Davis, ou c'est anecdotique pour vous?
C'est vrai qu'on s'en fout un peu
Anecdotique.
parce qu'on se fout de cette Coupe Davis, mais après c'est logique sportivement parlant parce que l'arrivée de la nouvelle version de la Coupe Davis ça coïncidait quand même avec le retrait de la génération qui nous a porté pendant 15 ans. Et aujourd'hui, le meilleur joueur français, il est à peu près 30-35e mondial depuis Gaël Monfils a eu ses gros problèmes physiques il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est logique. En plus, l'équipe de France, le tennis français a une vraie culture Coupe Davis. Donc, il a bénéficié de l'esprit de l'ancienne Coupe Davis. C'est des joueurs qui sont capables de se transcender à domicile. Là, il ne joue plus à domicile dans ses phases de poule. Donc, oui, c'est assez logique. Mais honnêtement, moi, j'ai presque préféré. Moi, j'ai vu quelques images quand même. J'ai suivi un tout petit peu la semaine dernière. Et voir les têtes attristées, vraiment, c'était dur, tu le sentais pour l'équipe de France contre la Grande-Bretagne. J'ai presque préféré voir ça que certaines victoires dans une indifférence totale et 12 spectateurs. Parce que là, au moins, ils ont perdu une rencontre de Coupe Davis. Alors
Il y a de
seulement,
l'émotion.
ouais, c'est seulement 3 matchs, il n'y a pas 3-7 gagnants, donc ce n'est pas ce qu'on a connu, mais ça se rapproche quand même un petit peu plus de l'esprit de la Coupe Davis, avec cette tension, avec cette grosse ambiance, et avec des joueurs très heureux et des joueurs très malheureux. C'est ça la Coupe Davis. Donc il faut aller vers ça. Après, honnêtement, que les Français gagnent ou perdent, c'est sans importance. Oui, j'aurais préféré qu'ils gagnent, mais pour aller jouer devant 40 spectateurs à Malaga contre je ne sais qui, à quoi bon?
La Coupe Davis, avant c'était du Château-Latour, aujourd'hui c'est du Cubi, quoi. Alors, en gros, pour résumer.
Ouais, mais il y en a qui aiment bien le cubi.
Ben voilà. Tant mieux pour eux.
Mais en revanche, juste, là on parle de hiérarchiser un petit peu les priorités, je crois aussi. Mais une des grandes priorités, à mon sens, c'est quand même aussi, comme le disait Bertrand, c'est d'espacer et surtout pas jouer tous les ans, quoi. Surtout pas.
Ben c'est
Là,
ça, on sait que le problème,
le
c'était le calendrier.
home and away, on est d'accord, mais surtout pas tous les ans. En fait, pour moi, si tu crées pas la rareté, tu crées pas la valeur, et à la fin, on va retomber un peu dans les travers du passé. Avec peut-être ben voilà, certains qui joueront pas, tout simplement. Moi, je suis convaincu qu'il faut au moins, et tous les 2 ans, c'est le minimum. Pourquoi pas pourquoi pas aller plus loin? Et c'est comme ça, c'est pas grave. Mais tu dois créer la rareté, c'est obligatoire.
C'est dit que Home and Away, c'est le plus bel avis australien auquel jouent les épouses de Lettonia Witt depuis toujours. Home and Away, c'est culte en Australie.
Oui, une
C'est un
belle
centre.
reconversion là.
Ah, ouais, peut-être. Ah, mais la physique. Attends, Arnaud, jeune premier dans Home and Away, alors peut-être, je sais pas, séduire l'actrice qui est la femme de Lettonia Witt. Ouais,
C'est bon,
il est
Bertrand.
vraiment temps que la Coupe Davis
Moi, j'aime bien
revienne
retenir
parce que
Edgar.
star
C'est
en
bon,
Australie.
Bertrand.
Star en Australie.
Ouais, moi, pour finir, je suis pas favorable à un format étalé sur 2 ans. Je crois que c'est Bertrand tout à l'heure qui
Bon, parmi
parlait.
les pistes, hein, voilà, c'est pas
Ouais, mais
incroyable.
je trouve que si tu commences, mettons, en février 2023, en premier tour, et une finale en octobre ou novembre 2024, tu as besoin quand même que ce soit un feuilleton aussi, la
C'est
Coupe
moins
Davis.
lisible.
Et là, je pense que tu perds un peu le truc. En revanche, moi, je pense qu'une formule type Ryder Cup, tous les 2 ans, ça pourrait être pas mal. Je trouve que, quitte à faire une première année, une forme de sélection, tu qualifies peut-être des têtes de série 4 ou 8 pour l'édition, mais l'année précédente, tu fais une sorte de qualification pour décerner 8 autres tickets. Je sais pas, oui, ça peut être une piste, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le statu quo est impensable. Enfin, ça me paraît. Et là, au moins, je crois quand même qu'à part Gérard Piqué, qui fort heureusement est parti, je crois que tout le monde est d'accord sur ce constat que c'est pas possible de continuer avec cette catastrophe industrielle.
Bon, en tout cas, Feliciano Lopez a l'air d'avoir conscience de ce qui ne va pas. En même temps, il faudrait avoir des œillères pour pas entendre toutes les critiques sur surtout ce domicile extérieur qui a disparu. Donc, on espère que ça va être l'occasion de remettre les choses à plat et de peut-être convoquer différentes parties pour penser à la meilleure formule possible pour les années à venir. On savait que pour 2023, c'était trop tard, mais c'est aussi l'occasion de, voilà, de repenser une formule qui, de toute façon, était en difficulté même avant l'arrivée de Cosmos. On va passer à notre deuxième thème. Il y a eu un événement cette semaine sur la planète tennis et sur la planète d'autres sports d'ailleurs en ce mois de septembre. C'est la Chine qui a rouvert ses portes, pas seulement au tennis, mais on l'a vu aussi au snooker par exemple. Hein, vous l'avez suivi sur Eurosport avec ce Master de Shanghai. 4 ans après eh bien, les derniers tournois joués, c'est le pays qui avait fermé ses frontières hein, à cause du coronavirus et donc qui rouvre ses portes au tennis notamment. Mais le retour des tournois féminins fait plus polémique que le reste parce qu'il y a 2 ans, la WTA avait décidé de façon symbolique, puisque le pays était fermé, de suspendre tous ses tournois en Chine en réaction à l'affaire Peng Shuai, la disparition de la joueuse chinoise qui avait accusé un ex-haut dirigeant d'agression sexuelle. La suspension était symbolique, mais la WTA a décidé de retourner jouer malgré le peu de changements qu'il y a eu dans l'affaire Peng Shuai, hein, et d'ailleurs la WTA l'a reconnu, bien que la situation n'a montré aucun signe de changement dans ce dossier, elle voulait lever la suspension de l'organisation de tournois, et elle a reconnu que c'était aussi pour des raisons financières, parce que ce sont des tournois très lucratifs, dont la WTA a besoin. Est-ce que on comprend évidemment qu'elle soit revenue dans ce pays, messieurs. Est-ce qu'elle pouvait faire autrement? Elle a aussi dénoncé le fait de ne pas avoir été plus suivie dans son action pour réclamer du changement et au moins la lumière sur cette affaire qui, eh bien, s'est éteinte petit à petit et dont on n'a pas vraiment eu de nouvelles depuis. Est-ce que la WTA pouvait faire autrement? Est-ce qu'on peut la blâmer de retourner en Chine, de ne pas garder sa suspension alors que le pays rouvre ses portes au tournoi et au sport en général.
C'est un sujet assez délicat parce que c'est finalement aussi un sujet de société. C'est difficile de se faire un avis là-dessus. En fait, la vie, le cours de la vie reprend toujours dessus sur un événement particulier, même si on peut le déplorer, évidemment. Mais on ne peut pas, à la vie, je pense, sanctionner la Chine pour l'affaire Peng Shuai parce que de toute façon, ça ne changerait rien. Les Chinois. Voilà, c'est un pays qui est quand même très, très fermé, qui verrouille beaucoup. On n'aura pas plus d'infos que ça. On ne sait pas aujourd'hui si elle est en liberté enfin, surveillée, etc. Il y a eu, on nous a montré plusieurs fois Peng Shuai à divers endroits, mais elle ne semblait pas forcément être en totale liberté. L'affaire est grave parce que ce qu'elle a dénoncé, c'est quelque chose d'assez horrible, effectivement, et commis par un membre gouvernement chinois, donc c'est sur le plan moral, non, ça n'est pas bien évidemment. Sur le plan moral, ça n'est pas bien de retourner en Chine parce que la Chine est une dictature, mais il y en a malheureusement beaucoup dans les pays où le tennis se rend, parce que effectivement quelqu'un de haut placé a abusé visiblement d'une joueuse et puis a fait en sorte qu'elle ne puisse plus s'exprimer et ne plus jouer, et l'a obligé certainement aussi à faire machine arrière dans ses déclarations. Donc, tout cela était très grave. Je trouve ça très bien que l'affaire ait longtemps quand même été prise au sérieux, qu'il y a eu ce boycott. C'est bien, mais malheureusement, je crois que le temps fait que, toujours, et même si c'est le contraire de la morale, eh bien, il y a toujours aussi des notions économiques et des notions aussi d'oubli, malheureusement, qui vont avoir lieu. C'est le cas dans tous les domaines. Je vais prendre un exemple qui n'est pas lié au tennis, c'est un exemple du foot. C'est Furiani, en fait, la demi-finale Bastia-Marseille 92, qui n'a jamais eu lieu parce qu'il y a eu cet écroulement de tribune. C'est grave, hein, il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés. On a décidé, en fait, depuis quelques années, de ne plus jouer de match le 5 mai en France. Et alors, je vais me faire beaucoup d'ennemis, hein, mais moi, je ne suis pas favorable forcément à cette décision. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, il y a eu des drames, il y en a eu quasiment tous les jours, il y en a eu plein d'autres dans des stades, hein, en Angleterre particulièrement, incendie, il y a eu des gens piétinés, il y a eu le Heysel, bien sûr. Et dans ces cas-là, si on ne devait plus jouer à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, bah, on ne jouerait quasiment plus du tout, ou très peu. Donc c'est bien de marquer le coup, le 5 mai, à chaque fois. Je sais que la Saint-Étienne le fait notamment quand elle va jouer à Bastia et il y a un commémoratif. Voilà. Donc, marquer le coup, oui, mais ne plus jouer, je ne crois pas. Alors là, ce n'est pas tout à fait le même problème, évidemment, mais c'est quand même la question, c'est faut-il arrêter de jouer en Chine complètement? C'est pourvoyeur d'argent, etc. C'est immoral, certainement, mais je crois que c'est le cours de la vie, malheureusement, et qu'il n'y avait pas de possibilité de faire un boycott définitif envers ce pays. Voilà, je prends beaucoup de pincettes parce que c'est quand même très délicat, notamment par rapport à la raison pour laquelle on n'y allait plus.
Et sur le fait que peut-être la WTA n'a pas été assez suivie, est-ce que ça aurait eu plus d'impact s'il y avait eu plus de voix qui s'élèvent? Est-ce que ça aurait changé quelque chose ou est-ce que de toute façon, effectivement, on pouvait s'attendre à ce que voilà, ça fasse du ramdam pendant un temps et puis qu'ensuite, eh bien, la
Moi,
vie reprenne son
je
cours?
crois que ça, je crois que ça aura rien changé. Je pense, je rejoins évidemment Bertrand sur ce que tu dis. Après, dans ce cas, si tu boycottes plus longtemps ou éternellement parce que tu considères que c'est immoral, parce qu'il y a une dictature, parce qu'il y a le non-respect des droits fondamentaux de l'homme et tout ça, enfin, il y a un moment où, dans ce cas, il y a plein d'autres pays dans lesquels il ne faut pas aller. Hein. Et je trouve. Même si là, il y a le cas dont on a parlé de Peng Shuai, mais au-delà de ça, non, enfin, on va au-delà. Enfin, je suis dans lesquels il ne faudrait pas aller du tout. Or, ce n'est pas le cas. Et ensuite, il faut quand même savoir que la WTA, il y a quelques années, a investi massivement en Chine, massivement. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce qui s'est passé. Il y a eu enfin, c'est grâce à la Chine, j'ai envie de vous dire quand même qu'il y a eu. Beaucoup, beaucoup de gros tournois qui ont été organisés avec beaucoup, beaucoup de prize money, ce qui a quand même permis à la WTA, je sais pas si c'est de se remettre à flot, mais en tout cas de vivre très grassement et ça a permis aussi à toutes les joueuses d'en profiter énormément. Enfin, aussi, mais encore une fois, je suis pas en train de vous dire que c'est très bien, je suis pas en train, mais ça a été quand même un gros investissement de la WTA il y a quelques années d'investir. Le continent, d'investir la Chine à fond et de se dire, voilà, il y a un marché à saisir, à prendre. Et aujourd'hui, ils sont un petit peu rattrapés par ça, parce que ça crée forcément des déséquilibres colossaux d'un point de vue économique, et ils y reviennent.
Le problème de la WTA, c'est qu'elle était même devenue dépendante du marché asiatique et notamment du marché chinois. Donc, à partir de là, il n'y avait que des mauvaises solutions. Dans le cas de l'affaire Peng Shuai, soit il ne faisait rien. Et je pense que du point de vue éthique, moral, c'était pas possible et ils en auraient pris plein la tête. Mais, comme vous l'avez dit, c'était pas tenable sur le long terme. Et on ne fait pas plier la Chine comme ça. La WTA, elle ne tient pas la Chine dans sa main. C'était plutôt le contraire. Donc ça pouvait, à mon avis, que se terminer comme ça. Je pense que c'était une posture morale. Je pense que de toute façon, ils auraient été très critiqués s'ils ne l'avaient pas fait. Donc c'était difficile de faire autrement. Et c'est, je pense, normal qu'ils l'aient fait. Mais en revanche, ce n'était pas une solution de long terme. Donc. Voilà. Le temps ne jouait pas en faveur de la WTA. Je pense que ça pouvait se terminer que comme ça, par un retour à la normale, alors qu'il a en plus coïncide avec la fin de la crise sanitaire, la réouverture à l'international de la part des Chinois. Mais il ne reste plus là que des décisions individuelles, comme celle d'Alizé Cornet, qui a choisi de ne pas aller jouer là-bas cette année. Mais. Une position globale de la WTA qui aurait dit non, non, on ne retournera pas en Chine tant que le cas Peng Shuai ne sera pas réglé ou tant que la Chine, allons-y, carrément devienne une démocratie à l'occidentale. Je pense que c'était un leurre et à mon avis, il n'y a pas de naïveté du côté des instances de la WTA. Ils le savaient. Ils ont pris une position qui a même pu paraître courageuse, qui à mon avis était plus une position morale à l'instant T. Pour éviter un tombereau de critique qu'une solution de long terme. Et je pense que tout le monde en était conscient.
Vous savez, la Chine, il y a eu pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, il y a eu quelques millions de personnes qui ont été expropriées de leur logement pour pouvoir construire un parc olympique, par ailleurs superbe. C'est vrai qu'il y avait une avenue entre le nid d'oiseau et le cube de glace, par exemple, qui était plus large que les Champs-Élysées. On se sentait très à l'aise, mais il y a des gens pour ça qui ont été expropriés et n'ont pas été relogés, la plupart, qui ont manifesté. Moi, j'étais arrivé un peu en avance, qui ont manifesté. Chine et on les a vite fait taire. Et les Jeux Olympiques n'ont pas été boycottés, hein, tout le monde y est allé. Et pourtant, c'était sur le plan humain quelque chose là encore d'extrêmement grave. On voit bien que c'est très difficile. C'est très difficile de. On a le droit de penser les choses, mais c'est très difficile. Effectivement, la Chine, c'est elle qui décide. On ne fait pas plier, comme vient de le dire Laurent, la Chine. Et n'oublions pas aussi, en parlant du tennis, que le Masters Next Gen, alors là, on ne parle pas de la WTA, mais de l'ATP, va quand même déménager en Arabie Saoudite. Un pays qui essaye d'émerger en ce moment dans le sport, on le voit bien avec le foot, qui essaye de s'acheter une image avec du sport et qui va donc accueillir ce Masters Next Gen. Et là, ça n'a pas l'air de gêner qui que ce soit. Pourtant, je pense pas que ce soit le pays au monde dans lequel la femme soit la mieux traitée. Là encore, il y a peut-être un peu d'hypocrisie. On pourrait aussi dire il faut pas aller jouer dans ce pays parce que non seulement c'est une dictature aussi, mais les femmes n'ont aucun droit. Et là, c'est vraiment vrai. Hein, lire des livres là-dessus sur des Français expatriés qui sont allés, c'est quand même très très grave. Et pourtant, il y a beaucoup d'argent, et quand il y a beaucoup d'argent en général, ben, il y a moins de morale. C'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de la société.
Et la WTA l'a reconnue, hein, elle a admis qu'elle cédait à cette pression financière de la Chine, dans laquelle, comme vous l'avez rappelé, elle avait beaucoup investi et était devenue dépendante. Donc au moins, elle a quand même eu une posture plutôt droite dans ses bottes du début à la fin. Elle avait prévenu que ce boycott viendrait à la fin de son échéance rapidement. Et c'est ce qui se passe avec la réouverture du pays. Donc voilà, on voulait quand même en dire un petit mot. Et on va finir avec Arnaud, ton œil, l'œil de Deep. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle pour un joueur qui n'a pas été épargné ces derniers temps.
Ouais, écoute, j'avais envie de parler de Lucas Pouille. Hein. Parce que j'étais sur le Open Blow de Rennes, le Challenger de Rennes, Anne, figure-toi, où il y avait beaucoup de Français, dont Richard Gasquet aussi. Mais petit focus sur Lucas, le pauvre, qui s'est une nouvelle fois blessé. Et j'avais envie d'en parler parce que je crois qu'il vraiment il fournit beaucoup d'efforts. Il a vraiment voilà, mis toutes les chances de son côté pour revenir. Il gagne deux matchs en jouant vraiment un très très bon niveau contre Broguet notamment au deuxième tour, il gagne 6-4, 6-2 en étant très costaud, très solide, vraiment avec une. Enfin, voilà, il était bon dans ses déplacements, dans ses frappes de balles. C'était lourd, c'était très concentré, on sentait beaucoup beaucoup de détermination et d'envie. Et malheureusement, c'est au niveau des abdos que ça a lâché contre Matteo Martino en quart de finale, donc à deux partout. Donc c'est ah, terrible parce que de repartir encore dans un cycle de récup, enfin d'attente d'abord, de récup ensuite, de réathlétisation pour se relancer sur tous les abdos, c'est quand même une zone qui est assez compliquée à gérer dans le sens où très rapidement on n'a plus mal, on ne le sent plus, mais en revanche, c'est un muscle profond dont il faut se méfier parce que bah, forcément, avec le service, les smashs, ça peut revenir très vite aussi. Voilà, j'imagine et j'espère que psychologiquement et moralement, il garde le moral et j'espère qu'il garde l'envie de revenir. Mais c'est un coup dur, un nouveau coup dur ouais, pour Lucas qui enchaîne les mésaventures.
Ouais, un tournoi qui a été gagné par Maxime Cressy
Ouais.
en finale sur forfait.
Benjamin, non, je
Ouais,
confonds les
sur
Benjamin
Benjamin
Bonzic.
Bonzic. Ouais. C'était un peu mal à la cuisse, en effet. Ouais. Un petit abandon. Et il jouait très bien aussi, Benjamin, qui est sur le retour et qui jouait vraiment très bien tout au long de la semaine. D'ailleurs, petite parenthèse, et vraiment, je le dis parce que je le pense, c'est un challenger assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous connaissez Bertrand et Laurent.
Rennes, non, non, non.
Il y a du monde. Non, mais c'est assez rare quand même. Et il faut le préciser, il y a du monde. Dès le lundi, la salle est comble.
À
Du
Brest aussi, je
lundi au
crois.
dimanche. C'est quand même assez remarquable. Non, mais c'est important de le souligner. C'est
Bien sûr.
rare. C'est rare. Il y a quasiment 3000 personnes dans cette salle. Tous les jours, dès le lundi, dès les premiers tours. Voilà.
Mais ça montre que le tennis est
Belle
quand
fête
même
du
plutôt en bonne
tennis.
santé.
Voilà,
C'est
mais
les gens qui
c'est
peuvent
à
pas aller voir
certains
la Coupe
endroits, ouais.
Davis, ils sont à
Non,
l'arrêt.
ouais. Non, mais en France, les challengers sont de
Il y
très
a
bonne qualité.
beaucoup de
Hein.
challengers en France, ouais, qui sont vraiment des très très beaux tournois et qui génèrent du monde. Il y a du public. Et je trouve qu'il est assez bien. Le circuit Challenger en France est plutôt bien foutu parce qu'il quadrille pas mal le territoire, des endroits où les gens ne voient pas forcément de tournois de tennis de très haut niveau, de 250, sans parler évidemment de Paris, hein, qui est un grand, qui est quand même peut-être une des rares villes au monde à avoir, peut-être même la seule, un grand chelem et un Masters 1000. Mais ouais, il y a beaucoup de challengers très très sympas. Et c'est vrai que moi, je suis jamais allé au challenger de Rennes, mais j'ai souvent vu des images. C'est vrai qu'il y
Incroyable.
a des 250 qui ont l'air quand même beaucoup moins bien foutus et moins sympas.
Ouais. Je suis allé au Challenger de Brest et c'est pareil, hein, il y a beaucoup de public, la salle est magnifique. C'était Scud à l'époque était directeur, maintenant c'est Arnaud Clément, mais c'est un très beau tournoi aussi. Et les joueurs aiment venir visiblement jouer en France à Aix-en-Provence, aussi Arnaud le directeur, Arnaud Clément. C'est aussi un très beau tournoi avec souvent de très beaux tableaux. Et pour revenir sur Lucas Pouille, on a eu le plaisir, nous, de l'avoir
Oui.
du coup pendant l'US Open. Et il a été très bon, je trouve. Il a son franc-parler, il dit ce qu'il pense et il est intéressant. Donc, si Lucas, et je ne l'espère pas, est encore blessé pour l'Open d'Australie, bah, il pourra toujours aussi venir rejoindre notre équipe. Mais j'espère que d'ici là, il pourra rejouer. Ça me fait juste penser aussi à un autre joueur qui n'est pas épargné en ce moment, qui n'est pas français, mais c'est Matteo Berrettini, qui lui aussi est en train de bien revenir. Et bing, il s'est refait la cheville bien comme il faut, le genou, je ne sais plus, à l'US Open en plein match.
Ouais, bah on souhaite des bons rétablissements prompts, surtout à ces joueurs et surtout à Lucas Pouille, qui effectivement avait rejoint avec succès notre équipe pendant l'US Open, et on s'est régalé à l'écouter, parce que c'est toujours aussi intéressant d'avoir l'œil d'un joueur qui est encore sur le circuit, qui est en plein dedans et qui a des choses à dire intéressantes.
Et puisqu'on parle de challenger et de français, il y a un jeune français de 21 ans qui s'appelle Terence Hattman qui a
Oui, t'as
remporté
raison.
deux challengers, dont un la semaine dernière, et qui rentre dans les 150 premiers mondiaux. Beaucoup ont découvert Tito Androguet lors de l'US Open. Bah, il fait partie de cette génération de jeunes joueurs qui progressent d'abord par le circuit challenger et qui, mine de rien, se rapprochent du top 100. Et voilà, dans les prochains, il y aura peut-être Arthur Cazaux. Qui est un super jeune aussi qui a perdu beaucoup de temps l'année dernière, notamment avec des blessures, mais qui fait une très bonne saison. Et Terence Hattman, ouais, ce sont des noms qu'il faut surveiller, qu'il faut regarder. J'invite les gens à regarder des images, même en live, hein, des tournois de Challenger. C'est assez facile via Internet avec l'ATP. Et c'est l'occasion de découvrir des joueurs qu'on n'a pas l'opportunité de voir encore. Sur les 250 ou les 500 ou plus. Et c'est le tennis parfois de demain, et pas de dans 5 ans, mais dans quelques semaines, quelques mois. C'est très sympa à regarder en général.
Ben voilà, c'était un joli mot de la fin.
Bravo.
Merci à tous les trois, merci à tous. Deep Impact, c'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, suivez l'actu sur eurosport.fr et sur nos antennes. Bye bye, merci messieurs.
Merci,
merci.
Salut.
Merci.